With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est le grand retour d'Eurosport Confidential. Après quelques mois de pause parce que nous avions plein de beaux projets à mettre en place, Eurosport Confidential revient avec plein d'invités de marque. Eurosport Confidential, le podcast qui vous fait découvrir le passionné de sport derrière le champion. Je vous rappelle rapidement le principe, trois parties dans cette émission et c'est notre invité qui s'occupe du menu. Il y aura d'abord la rétro perso où nous évoquerons avec lui un souvenir fort de sa carrière. Dans le jour où notre invité vous parlera d'une page de l'histoire du sport qui l'a particulièrement marqué. Et enfin, dans Mon Idole, il sera question d'une personnalité sportive à laquelle il voue une grande admiration. Avec nous aujourd'hui, un des sportifs français les plus titrés, tous sports confondus, une légende du handball, tricolore. Il va me dire si je me trompe, je vais essayer de pas me tromper. 4 titres de champion du monde, 3 titres de champion d'Europe et 2 médailles d'or olympiques, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Voilà, vous avez peut-être reconnu sa voix, c'est monsieur Jérôme Fernandez. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Tout va bien ?
Tout va bien, ouais, on est très très bien ici à Tignes, sous la neige et dans des conditions optimales avec des gens adorables, donc c'est parfait.
Je précise que le podcast est enregistré à Tignes, donc pendant les étoiles du sport, effectivement on est pas mal. Donc on va démarrer avec la première partie d'Eurosport Confidential, c'est la rétro perso.
Narcisse, Dinard, Omeyer, Fernandez, Guillaume Gilles, mais eux sont double champions du monde. Quel palmarès! Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ce handball français? Aucun équivalent!
La rétro perso de Jérôme Fernandez, on va donc revenir sur un moment fort de sa carrière. Et pour le coup, il y avait le choix.
Oui, j'ai eu la chance.
Vraiment le choix. Et je vais laisser Jérôme dévoiler quel moment de sa carrière il a choisi de nous parler aujourd'hui.
Ben, le moment le plus fort de ma carrière en équipe de France, ça a été la victoire au Mondial 2009 en Croatie. Pour trois raisons. La première, c'était que c'était ma première compétition en tant que capitaine. Donc on venait d'être champion olympique et avec Olivier Giraud comme capitaine et j'avais envie que cette équipe continue à performer et à gagner, même si on avait changé le brassard de personnes. La deuxième, c'était parce que on a joué chez notre plus gros rival en Croatie. En plus, on voulait absolument les jouer en finale devant tout leur pays et essayer de les battre finalement dans les conditions les plus difficiles pour que vraiment ils puissent ensuite dire, eux et puis l'ensemble du handball mondial, qu'on était la meilleure équipe à ce moment-là. Donc ça a été un moment fantastique de jouer devant 15 000 Croates passionnés qui ont poussé leur équipe à fond et qui nous ont encore plus motivés, nous, pour aller chercher ce titre mondial. Et la troisième raison, c'était parce que malheureusement mon papa était en fin de vie, malade d'un cancer à ce moment-là, et c'était la dernière compétition qu'il pouvait voir à la télé, parce que je savais qu'il malheureusement il allait décéder quelques jours après la compétition. Donc voilà, j'avais très envie d'aller chercher ce titre pour rentrer avec une médaille et pas avoir le sentiment de d'avoir raté quelque chose, de pas avoir été assez présent pour lui. Donc voilà, j'étais un peu en mission à ce moment-là pour pouvoir lui dire au revoir après avec une médaille d'or autour du cou et qu'il soit pour le coup une dernière fois très fier de son fils.
Les garçons sont vraiment au-dessus du lot, il n'y a rien à dire. Battre les Croates en Croatie, ça relève de l'exploit. Et beau geste du public croate maintenant qui va applaudir cette équipe de France.
Alors, sportivement, pour vous, Jérôme, c'est pour toutes ces raisons encore plus fort que les deux titres olympiques à Pékin et à Londres ?
Oui, parce que je pense que la maladie de mon papa a rajouté beaucoup d'émotions au contexte de cette compétition. Moi, je me suis mis beaucoup de pression aussi par rapport à ce nouveau rôle de capitaine, parce que on était plusieurs à être légitimes finalement pour prendre le relais d'Olivier Giraud.
Et comment ça s'est décidé alors ?
C'est le staff qui a décidé en nous expliquant que j'étais la personne qui pour eux représentait l'ensemble du groupe et créer le plus de liens entre les groupes d'affinité et que finalement en plus ma relation avec le staff était suffisamment proche pour que je puisse jouer le relais justement entre les joueurs et le staff technique et médical. Donc c'est vrai que
et vous étiez presque déjà un
pas.
Ancien dans cette
ah oui,
vous
oui,
étiez
bah,
là
était,
en 2001
on
déjà
5 ou 6 ouais. À être ancien à ce moment là et à avoir tout gagné avec cette équipe de France, donc c'est vrai que bizarrement c'était pas quelque chose auquel je m'attendais.
Vous n'étiez pas spécialement candidat?
Non, parce que j'avais le sentiment de pas avoir le caractère en fait d'être suffisamment meneur d'hommes pour amener les autres avec moi. J'avais des caractères très forts avec moi, des Didier Dinard, des Guillaume Gilles, des Thierry Omeyer, des Bertrand Gilles. Donc j'avais le sentiment que Daniel Narcisse et moi, on était peut-être un peu trop gentils pour pouvoir relever ce défi. Et puis voilà, le staff a fait son choix, je l'ai accepté avec grand bonheur parce que c'est une fierté quand on vous donne cette responsabilité-là. Mais j'avais quand même au fond de moi le sentiment qu'il allait falloir que je fasse mes preuves, notamment par rapport à mes coéquipiers qui auraient pu avoir ce brassard. Et finalement, je l'ai pris dans le sens où j'avais envie qu'on soit tous capitaines, voilà, et faire un espèce de pool d'anciens où on avait toute cette responsabilité-là. Alors moi, j'avais le brassard pendant les matchs et c'est moi qui faisais le tirage au sort avec les arbitres et tout ça, mais finalement, on était tous responsables de ce qui se passait dans le groupe. Et
ça a changé quoi pour vous concrètement dans votre façon alors, d'être dans le groupe ? Rien ou...
Moi, ça n'a absolument rien changé dans ma façon d'être. Par contre, dans ma manière d'appréhender les stages, les compétitions, ça a changé beaucoup de choses parce que ça a été vraiment le moment où j'ai commencé à beaucoup plus penser encore plus qu'avant au collectif qu'à ma personne. Et finalement, ça a été une très bonne période de transition pour m'amener à mon futur métier d'entraîneur. Donc finalement, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Parce que c'est vrai qu'après les Jeux de Pékin, moi j'avais quand même 31 ans, donc je savais que c'était une question de quelques saisons pour que je reste en équipe de France. Et puis finalement, j'ai eu la chance d'y rester cette saison supplémentaire, de pouvoir porter ce brassard pendant cette saison. Et j'ai essayé de profiter de tous ces moments pour donner de la confiance aux jeunes qui rentraient dans le groupe, pour faire en sorte que le groupe vive bien et être au service du collectif.
Vous êtes épanoui dans ce rôle de capitaine ?
Je me suis beaucoup épanoui, ouais, parce que finalement, je pense que j'ai pris ce rôle dans le bon sens et finalement j'ai eu un rôle qui me correspond aussi à moi dans mon caractère. J'ai pas essayé de surjouer, j'ai pas essayé de jouer un rôle qui était différent de ce que j'étais moi comme personne. Et finalement c'est peut-être aussi pour ça que ça s'est bien passé. Voilà.
C'est fini. Une seconde. Et la France est championne du monde encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on les aime. Mais qu'est-ce qu'on aime ce handball français. C'est pas possible. Ils ont gagné encore.
On va parler maintenant de ce mondial 2009. Et évidemment, le grand rendez-vous, la finale. Pourquoi la Croatie, ce rapport si spécial entre ces deux équipes, ces deux nations, la France et la Croatie? Pourquoi cette rivalité, alors que vous avez aussi
une rivalité
forte avec l'Allemagne aussi, par exemple, la Suède, mais
oui, c'était une rivalité.
On a l'impression qu'il y avait quelque chose en plus entre France et Croatie.
Le petit truc en plus, c'est que on s'est souvent croisés dans les compétitions et celui qui l'emportait entre les deux,
gagnait la compétition.
Il allait au bout. Donc ça a vraiment créé cette rivalité. Et en plus, on était nombreux à jouer ensemble en club. Donc on se côtoyait même au quotidien dans nos clubs respectifs. Et finalement, toute cette rivalité qui était bon enfant, parce que c'était pas comme avant, à l'époque des anciens, où eux jouaient dans le championnat de France. Et quand ils portaient le maillot bleu, c'était un peu comme s'ils allaient à la guerre. Ils allaient contre les Suédois, ils allaient contre les Russes. Mais ils ne les connaissaient pas personnellement. Alors que nous, en fait, on se connaissait, on connaissait nos femmes. On connaissait même nos enfants jouent ensemble, donc on était potes quoi. Donc on était bien sûr adversaires le temps du match, mais il n'y avait pas cette méchanceté ou cette animosité qui pouvait exister auparavant quand chacun restait dans son pays à jouer dans son championnat.
Et en plus, alors les JO non, mais le championnat d'Europe, le championnat du monde se déroule en plein milieu de la saison de club. Donc quand on rentre après une finale gagnée ou une finale perdue, j'imagine que...
Ah, c'est sûr qu'après dans le vestiaire, oui, on en reparle. Mais bon, on enchaînait quand même très très vite sur le projet club. Parce qu'une semaine après notre retour, il fallait faire les premiers matchs officiels avec nos clubs respectifs. Donc on n'avait pas le temps de trop se taquiner. Mais c'est vrai que finalement, ce qui était sympa, c'est que quand on partait du club pour aller en équipe nationale, à chaque fois on se disait, bon, mais allez... rendez-vous peut-être en finale et que le meilleur gagne, quoi. Mais il n'y avait pas de méchanceté, quoi.
De cette compétition, vous avez spontanément quel souvenir? Vraiment la finale ou autre chose?
Ouais, il y a plusieurs souvenirs. Il y a le premier match contre qui on a joué, contre la Croatie, où on a joué au tour principal, mais on était qualifiés déjà tous les deux pour les demi-finales. Donc c'était un petit peu un match de poker menteur. On a mis quelques éléments de côté, on ne s'est pas vraiment livré. C'était un match un peu biaisé par le manque d'enjeux. Après, il y a eu une demi-finale qui a été très difficile contre le Danemark, si je me trompe pas. Et en plus, on avait changé de site, etc. Donc ça avait rajouté un petit peu de difficulté. Mais on était tellement motivés pour retrouver les Croates pour le vrai match, cette vraie finale qu'on rêvait tous de jouer contre eux. Et puis bien sûr, la finale, ça a été l'apothéose, mais c'est vrai que ça a été une compétition, on va dire, très très bien gérée, où on est monté en puissance et on est arrivé sur cette finale finalement à notre meilleur niveau et avec le plein de confiance et avec le plein de détermination. Donc on a très très bien géré notre match, très très bien géré notre finale. À aucun moment on a, je pense, donné le sentiment aux Croates qui pouvaient faire le trou et tuer le match. Et finalement c'est eux qui ont craqué à la fin, parce que je pense qu'ils ont été rattrapés par l'enjeu de l'événement, parce qu'ils étaient chez eux, ils avaient la pression de leur pays, et que nous on n'avait pas, parce que si on perdait
c'est
en Croatie, c'était
plus un poids qu'un
ouais, exactement.
Pour eux.
Et à la fin du match, ça a été très compliqué pour eux, et nous on a été réguliers sur toute la rencontre.
Eh oui, carton rouge bien entendu, ils craquent complètement les Croates, ils craquent complètement. Oh là là, sur le banc de touche, les Français sont en train de s'embrasser, alors que pour l'instant les Français reçoivent tout un tas de projectiles des supporters croates.
Ouais, ça ne change rien, vous pouvez jeter ce que vous voulez. La Coupe du Monde, elle reviendra à Paris.
Vous aviez vécu une finale mondiale à domicile.
Oui, mais à contrario, on n'était pas favori.
Vous étiez outsider.
Ouais. On était outsider. L'équipe de France aurait pu se prendre les pieds dans le tapis en 2017, par exemple. Là, oui. Mais ils sont arrivés à aller jusqu'au bout de la compétition. Donc, c'était encore un contexte différent. Et ça a été une magnifique compétition en 2017. Mais en 2001, on n'était pas favori. On s'est retrouvé en finale contre, on va dire, l'équipe qui dominait,
depuis
qui
10 ans,
faisait rêver. Donc, c'était un peu le France-Brésil au football. Et,
c'était la Suède, hein, je précise.
Voilà,
je rappelle.
Exactement. Et c'est vrai que on n'avait aucune pression sur ce match-là et on a tout lâché. On a eu de la réussite, on a eu le soutien du public, quelques coups du sort qui ont joué en notre faveur. et on a été champion du monde. Alors
et un bon petit match de Jérôme Fernandez, si je me souviens bien. Hein,
oui, alors une compétition vraiment très très mauvaise. Et en fait, il y a eu un déclic à la mi-temps de la demi-finale contre l'Égypte, où Daniel Costantini m'a fait clairement comprendre que soit je me réveillais et je rentrais enfin dans ma compétition, ou soit ça serait très certainement ma dernière compétition avec les Bleus. Et je pense que ça m'a mis un coup de fouet et du coup j'ai arrêté de me prendre la tête et de réfléchir et j'ai essayé de jouer naturellement avec mes qualités et ça a fonctionné pendant un match et demi, donc la deuxième mi-temps de la demi-finale et la finale.
Pour revenir finir sur la Croatie 2009, si on met de côté tout ce qui est très personnel, vous parliez de votre papa, le fait que vous étiez capitaine, est-ce que vous diriez que sportivement, c'est la plus belle finale ou la plus maîtrisée, ou du fait que vous jouiez la Croatie en Croatie, est-ce que c'est la plus grande finale que vous ayez jouée avec les Bleus, ou c'est difficile de dire?
Je pense que c'est notre plus grande victoire, oui. En tout cas, moi, mon ressenti, pour ma génération, je pense que c'est notre plus belle et plus grande victoire. Parce que même si on a gagné au Danemark contre les Danois, il n'y a pas eu cette tension pendant le match, parce qu'on a fait le trou très rapidement. Alors que contre les Croates, ça a été serré jusqu'à 10 minutes de la fin et ils ont craqué à la fin. Et puis vraiment, les Croates, ça faisait plusieurs années qu'on se battait avec eux. Alors que les Danois ont commencé à émerger quand on les a rencontrés en finale. Donc c'était le début de leur... Voilà, exactement. Et finalement, c'est eux qui ont pris le relais après nous, puisqu'ils ont été champions olympiques contre nous à Rio. Et ils ont été champions d'Europe aussi derrière. Donc voilà, ils ont pris le relais de notre domination.
Voilà, fin de cette première partie. On va passer maintenant à la deuxième rubrique d'Eurosport Confidential et on va continuer à parler de handball. Deuxième partie d'Eurosport Confidential, le jour où et maintenant, Jérôme Fernandez ne va pas évoquer ses souvenirs de champion, mais de fan de sport, comme vous et moi, et un souvenir d'adolescent. On est à Barcelone en 1992 et c'est le début vraiment de l'aventure du handball français, en tout cas au très haut niveau, même si l'aventure avait peut-être démarré un petit peu plus tôt avec le Mondial B en France, etc. Mais les Jeux de Barcelone, la médaille de bronze, les fameux bronzés. Jérôme Fernandez, vous avez 14-15 ans à l'époque.
15 ans. Voilà.
Donc vous êtes devant votre télé, j'imagine,
oui.
Pendant les vacances.
Et puis en plus, c'était la première fois, moi, que je voyais du handball à la télé, parce que on n'était pas un sport très médiatisé encore à l'époque. Et l'avantage des Jeux, c'est qu'on peut suivre toutes les disciplines. Donc là, pour le coup, on avait suivi l'équipe de France du début jusqu'à la fin avec ma famille, puisque mes parents étaient aussi handballeurs et passionnés de handball. Donc ça a été une compétition magique, parce que c'était la première fois que l'équipe de France faisait partie des toutes meilleures nations, qu'elle montait sur un podium. Et je pense que ça a décomplexé ma génération et toutes les générations qui sont passées derrière, en nous donnant envie et surtout conscience que le handball français était capable de faire de grandes choses si on s'en donnait les moyens et si on y croyait. Et voilà, grâce à cette génération, grâce à Daniel Costantini qui avait démarré le processus au milieu des années 80, le handball français a commencé à performer vraiment à partir de là, et l'histoire de l'équipe de France de handball a vraiment démarré en 1992, en tout cas les titres et les podiums. Donc c'était un vrai déclic, je pense, pour notre discipline.
Oscar de la persévérance, César de l'humilité. Costantini est depuis 15 ans à la tête des Bleus. À son arrivée, le handball français n'est rien, ou si peu. Il le façonne, le modèle, le forge de toutes pièces. 1992, la génération Barjot décroche le bronze des JO de Barcelone. 1995, elle devient championne du monde à Helsinki. Le destin des Bleus, c'est son destin à lui.
Vous avez quel souvenir de cette équipe? Quel joueur vous, vous marquez le plus? Je sais pas, Jackson Richardson, Philippe Gardant?
Il y en a eu beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup Jackson, bien sûr, mais j'aimais beaucoup Denis Latou, Frédéric Vol, Stéphane Stocklin, Gary Kervadec. Gary est arrivé après, mais il y avait Philippe Gardant en pivot. Bon, c'était des joueurs très talentueux qui avaient une rage de vaincre et c'était une équipe qui avait une cohésion folle, quoi. Et c'était des joueurs qui nous faisaient vibrer par ce qu'ils mettaient sur le terrain, leur intensité, leur rage de vaincre ensemble. Et ça a été une magnifique image pour notre sport, quoi.
Et puis des très fortes personnalités aussi, au-delà de la performance.
Oui, mais en même temps, à l'époque, si tu voulais réussir, tu étais obligé d'avoir une forte personnalité parce que ils ont dû accepter des charges de travail incroyables dans une période où le handball n'était pas encore professionnel. Donc les clubs de première division ne s'entraînaient pas autant qu'aujourd'hui. Et eux se sont retrouvés à faire des stages et des stages et des stages en permanence avec l'équipe nationale. Ils s'entraînaient, je crois, 200 jours par an ensemble en équipe nationale. Pour nous, ça semble tellement incroyable aujourd'hui par rapport au calendrier qu'on a. Mais tout a été mis en œuvre pour que cette génération de joueurs puisse performer et pour que eux puissent supporter tout ça, l'absence du foyer, du cocon familial, le fait de partir en bus, aller jouer en Russie, de faire des déplacements incroyables et d'être tout le temps ensemble. Il n'y avait qu'avec des grosses personnalités que ça pouvait marcher.
Vous étiez déjà joueur, j'imagine, à cette époque-là?
Ah oui, moi, ça faisait déjà 10 ans que je jouais au handball, mais j'étais très jeune, j'avais 15 ans. Et
c'était déjà dans un coin de votre tête?
Pas du tout, non. Pas du tout. Moi, j'ai fait du handball parce que j'étais dans une famille de handballeurs et que finalement, je passais mes week-ends dans les gymnases. Alors, soit encourager papa, soit maman, soit aller les voir arbitrer, ma mère me coachait. Voilà, c'était le handball convivial et c'est vrai que même si j'étais dans une équipe où on gagnait beaucoup de matchs, mais j'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pouvais ne serait-ce que jouer en première division ou pouvoir prétendre jouer en équipe de France.
C'est arrivé quand ça?
J'ai commencé à en prendre conscience on va dire au milieu des années 90 quand je suis rentré en équipe de France Espoir. J'étais encore en sport études, en pôle. J'avais redoublé ma première S, donc j'étais en terminale. Et je suis rentré en équipe de France Espoir. Je commençais à m'entraîner avec les Girondins de Bordeaux, avec le groupe qui joue en première division. Et là, je me suis dit, j'ai peut-être le potentiel pour jouer en première division pendant ma carrière. Et je vais essayer de faire en sorte de bien travailler. Et après, tout est allé très très vite parce que j'ai fait 2 ans en équipe de France Espoir. Ça m'a permis de beaucoup progresser. J'ai bien travaillé avec Borogolic au Girondin. On a eu la chance en plus de faire quelques stages en commun avec l'équipe de France A. Donc de pouvoir se mesurer à eux. On est monté sur un podium avec l'équipe de France Espoir. Donc là, j'ai commencé à rêver grand et à me dire, je vais peut-être être professionnel de handball et peut-être un jour. Dans 10 ans, j'aurai la chance de pouvoir porter le maillot bleu. Et finalement, en 97, Daniel Costantini m'a appelé sur mon premier stage. On était en novembre 97. J'avais 20 ans. Ça faisait seulement 3 mois que j'étais professionnel avec Toulouse, puisqu'avant, j'étais stagiaire pro à Bordeaux. Donc, c'était vraiment... ça a été vraiment très très vite pour moi et j'étais dépassé vraiment par ce temps qui filait à toute vitesse et j'étais loin de penser qu'en plus l'aventure avec les Bleus allait durer pendant 18 ans parce que tous les anciens arrêtaient à la trentaine passée, on va dire, parce qu'ils étaient usés par la charge de travail, par les matchs, etc. Et jamais je pensais finir ma carrière à 40 ans et être encore en bon état physique.
Quand vous arrivez en équipe de France, vous avez côtoyé des membres de cette génération,
Jackson,
Stéphane Stocklin, qui était encore là, même Christian Gaudin, je crois, en 2001.
Oui, bien sûr.
Quand on croise ces joueurs qu'on a admirés devant la télé,
ouais.
On est timide.
C'est très difficile.
Ouais.
C'est très difficile psychologiquement parce que moi déjà j'avais le sentiment de pas être à ma place, de pas avoir le niveau pour être là parce que j'étais très jeune et que même si j'étais capable de faire des matchs avec Toulouse où je mettais des buts, je défendais pas, j'étais pas capable de faire marquer les autres ou très peu. Donc j'étais un buteur mais j'avais beaucoup de choses à apprendre encore et j'avais le sentiment vraiment d'être là plus par défaut parce que Daniel avait envie de mettre une génération pour préparer 2001 et en plus je me retrouvais à côtoyer mes idoles quoi, ceux qui m'avaient fait rêver quand j'étais gamin et du coup c'était très compliqué de pouvoir parler avec eux parce que je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais c'est un peu comme ici, quand il y a un espoir qui se retrouve avec un parrain qui a gagné plein de titres et qui l'a fait rêver et qui lui a donné envie de faire cette discipline-là. Ben moi, c'était ça un peu le contexte. Et les premiers entraînements, j'avais plus envie de les regarder jouer que de jouer avec eux. Quoi. Donc c'était très compliqué et ça a été très long pour casser vraiment cette sensation psychologique de pas être à ma place. Je crois que finalement j'ai commencé vraiment à me sentir bien à leur côté quand on a été champion du monde ensemble. Voilà, ça a été donc 3 ans et demi, ça peut paraître court aujourd'hui avec le recul, mais 3 ans et demi c'est très long quand on a 20 ans, c'est très 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 long.
Ok, bah voilà pour cette deuxième partie. On va parler d'une autre idole maintenant. Et là, cette fois, on va quitter le handball pour la dernière partie d'Eurosport Confidential.
Oh, j'aurais pu choisir un handballeur. Hein.
C'est vrai, ouais, on aurait pu faire un 100% de balle. Mais on va rester dans un sport de salle et un sport de ballon, avec une balle un petit peu plus grosse. La dernière partie d'Eurosport Confidential, toujours avec Jérôme Fernandez, notre invité aujourd'hui. Allez, on laisse de côté le handball, on a bien fait le tour, et on va parler basket maintenant dans mon idole, avec un joueur que j'imagine vous avez vu jouer quand vous étiez enfant.
Oui.
Il s'agit de Magic Johnson, l'ancienne star des Lakers. On va peut-être parler aussi des jeux de 92 d'ailleurs. Rebound to Kupchak. He throws it off the hand. Luckily it goes to Magic. Magic in deep, gives to Wilson. No look pass, a scoop pass with a lot of dazzle. Nice play. No good, the rebound to Rambus. The ex-New Yorker to Nixon. To Magic, he fumbles it, gets it, wrap around to Wilson. Score! That brought him alive in the Big Apple. The rebound is off and Magic's got to carry him. Magic out of the backcourt, 4-on-2. To the right side of Nixon, the middle man Magic. Back underneath to Wilson. Wilson scores. A great, great no look pass by Magic. That's impossible to make that play. Pourquoi Magic Johnson ?
Pourquoi Magic Johnson ? Parce que je pense que sportivement, il représentait tout ce que je voulais être, moi, en tant que handballeur. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu envie de devenir le joueur le plus complet possible. Et j'avais le sentiment que Magic Johnson était un joueur abouti. Il était capable de marquer, de faire marquer, d'amener de la confiance à ses coéquipiers, d'amener de la crainte à ses adversaires. Et on savait vraiment jamais en fait ce qu'il allait faire. Quand il faisait des passes aveugles, quand il était capable de prendre les responsabilités quand il fallait, dans le money time, aller chercher la victoire. Et c'est vrai que souvent on parle de Michael Jordan, mais Michael Jordan, pour moi, même si c'était quand même un joueur complet, c'était un joueur assez individualiste. Et j'aimais le côté altruiste de Magic Johnson. Donc, il m'a donné envie, voilà, de devenir un joueur le plus complet possible. Et c'est vrai que nous, par exemple, en France, on a eu la chance d'avoir un Boris Diaw, qui est un petit peu dans ce registre-là, capable d'évoluer sur plusieurs postes.
Quasiment tous les postes.
Voilà, ouais. D'être au service du collectif, de prendre des responsabilités quand il y avait besoin, quand l'équipe en avait besoin, mais d'être discret aussi pour laisser le collectif finalement briller plus que lui. Et ça, vraiment, ça m'a marqué et ça a été une source de motivation pour moi, pour ma carrière de handballeur par la suite.
C'est leur moyenne habituelle sur tout un match, donc ce point-là sera Boris vraiment Diaw. À ne pas négliger.
Voilà. Michael, j'ai la balle de partout. La balle au capitaine Boris Diaw.
Voilà, Antoine Diaw qui doit prendre ce shoot. Voilà qui est fait. Et c'est dedans.
Oui, c'est dedans. Bien vu, Richard.
Magic, vous l'avez découvert comment ? On est de la même génération, donc j'imagine...
Avec la Dream Team, essentiellement.
Avec la Dream Team.
Avec la NBA aussi.
Mais c'est vrai qu'on avait... Les jeunes ne s'imaginent pas ça aujourd'hui, mais voir la NBA dans les années 80 en France...
C'était très compliqué.
C'était très très compliqué. C'était Il y a eu Canal qui a fait beaucoup pour populariser la NBA. Sûr. Mais c'est vrai qu'on avait droit à un résumé de match le samedi qui datait souvent d'une semaine. Donc c'était compliqué. Ouais. Alors, c'est vrai que la NBA a vraiment explosé au début des années 90 avec les premières finales diffusées en direct la nuit. D'ailleurs, la première finale diffusée en France, c'était celle de 91 entre les Bulls et les Lakers. Donc la dernière de Magic Johnson. Avant qu'il stoppe sa carrière et qu'il annonce qu'il était séropositif. Et donc, on va revenir à Barcelone, effectivement. On y retourne un an après, la Dream Team, dont Magic va être une des grandes figures.
Ouais, une des grandes figures, même s'il y en avait beaucoup dans cette équipe incroyable. Mais voilà, moi, je m'identifiais plus à lui et c'est vrai que j'observais beaucoup. J'observais beaucoup. Comment il était aussi avec ses coéquipiers, cette manière qu'il avait de toujours encourager la petite tape sur l'épaule pour le petit clin d'œil. Puis même avec les adversaires, il était toujours respectueux.
Mais Magic, c'était un immense joueur, mais c'était aussi une personnalité, toujours très souriant. C'était une très grande star aussi. C'est quelque chose, être une star, être connu. C'est quelque chose qui vous a pesé, vous ?
Alors ça n'a pas du
pas
tout
forcément
été...
comparé avec ce qu'a été un joueur comme Magic, mais vous parliez tout à l'heure de votre personnalité, l'impression de ne pas forcément être à votre place quand vous êtes arrivé en équipe de France, l'impression que le rôle de capitaine n'était pas forcément pour vous, alors que Magic, on a l'impression que c'était quelque chose...
De naturel.
Que tout était naturel chez lui, ce rôle de leader.
Ouais, moi, en fait, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que les ambitions, elles sont venues sur le tas, en fait, pendant ma carrière. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, j'avais jamais imaginé pouvoir jouer en première division ou en équipe de France un jour quand j'étais jeune.
Vous n'étiez pas programmé, vous ?
Je m'étais pas du tout programmé pour ça. Et pour moi, le handball, c'était ma passion, c'était du plaisir. Et finalement, c'est quand j'ai commencé à éclore au haut niveau qu'au fur et à mesure de ma progression et de ma prise de conscience de ce que j'étais capable de faire et finalement de construire mois après mois, année après année, que je me suis fixé des objectifs de plus en plus élevés. Et finalement, quand je regarde mon palmarès et mon CV, il n'est pas du tout en adéquation avec ce que j'attendais, quoi. Donc j'ai une chance énorme, ça j'en suis conscient, mais j'ai toujours voulu surtout être une bonne personne, être un bon coéquipier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me retrouve dans ce handball médiatisé, j'ai envie de transmettre les bonnes raisons pour lesquelles on fait du sport et on choisit sa discipline, en fait. Moi, j'ai envie que les joueurs de handball d'aujourd'hui soient aussi passionnés que moi je l'étais à mon époque.
Et que, c'est une crainte, ça, chez vous dans la...
Oui, parce que j'ai le sentiment, et en plus aujourd'hui je suis entraîneur, donc je le vis un petit peu au quotidien, j'ai le sentiment que la médiatisation du handball apporte de très bonnes choses, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de moyens, donc c'est plus facile de travailler quand on est entraîneur, parce qu'on peut avoir des staffs plus étoffés, avoir des gens plus compétents, etc., puisqu'on peut les payer. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment d'avoir des fois en face de moi des joueurs qui ont percé parce que le handball était médiatisé, parce que le handball pouvait leur permettre aussi de gagner de l'argent et de...
Ça veut dire qu'il y a peut-être des jeunes aujourd'hui qui
social,
s'orientent
quoi.
Vers le hand pour, en tout cas pas pour les mêmes raisons que vous il y a 25 ou 30 ans.
Mais en tout cas, raisons. Moi ce qui est sûr, c'est que quand j'étais
c'était pas
jeune,
pour gagner de l'argent.
Je faisais pas du handball pour gagner de l'argent et je faisais pas du handball pour passer à la télé parce que ça n'existait pas. Voilà, les joueurs de handball, ils travaillaient à côté ou ils faisaient des études. Quand j'entends parler de double projet ici aux Étoiles du Sport, ça me parle parce que nous on était dans cette construction-là, on lâchait pas les études. Et on savait qu'on allait travailler en faisant du handball. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que certains vont au handball parce qu'ils sont doués, bien sûr, mais ils sont peut-être moins animés par cette flamme, par cette passion que nous, on pouvait avoir. Je parle de ma génération, mais aussi celle d'avant. Et quand je dis celle, c'est au pluriel. Hein, c'est pas que les Bargeaux, c'est ceux aussi qui sont passés avant, où eux, pour le coup, ils n'avaient pas de moyens. Ils faisaient des déplacements en bus dans des conditions des fois un peu loufoques, dans des périodes de l'histoire où il y avait le mur de Berlin, il y avait des frontières. Enfin, c'était très compliqué d'être handballeur et de jouer pour l'équipe de France de handball dans les années 70-80 ou même avant. Voilà, donc aujourd'hui, le handball brille. Et ça fait rêver les jeunes, mais pas pour les mêmes raisons que nous on pouvait avoir quand on avait leur âge, quoi.
Pour revenir sur Magic Johnson, votre choix, aujourd'hui encore, vous êtes fan de NBA, c'est un sport que le basket vous continuez?
Je suis fan de sport en général et le basket est un sport que je suis comme beaucoup d'autres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, mon âge fait peut-être que je m'identifie moins aux joueurs et peut-être plus maintenant aux coachs. Donc j'ai plus tendance à regarder un peu des Steve Kerr par exemple, ou à regarder un peu ce qui se fait dans d'autres sports comme au football, peut-être des Guardiola, voilà, des gens comme ça, bien évidemment aussi dans mon sport, hein. Mais je m'identifie maintenant plus à des managers ou à des entraîneurs et des coachs qu'à des joueurs, c'est normal.
Quand vous avez fait les jeux, vous avez croisé des joueurs NBA, on croise des... Ouais.
Rarement, hein. Rarement, mais on a eu cette chance effectivement que certains joueurs NBA passent au village et prennent le temps d'aller à la rencontre des autres athlètes. Mais pas que, hein, parce qu'il y a eu des Rafa Nadal, des Roger Federer. Et c'est vrai que c'est ce qui est magique aussi quand on vit les Jeux. Même en étant aux Jeux Olympiques et en ayant l'ambition d'être champion olympique, quand on est fan de sport,
on garde un peu
on garde cette âme d'enfant et on profite de chaque moment, du village, des athlètes qu'on croise. Moi, quand on s'entraînait pas ou quand on jouait pas, j'allumais la télé, je regardais ce que faisaient les autres athlètes français, médaillables ou non médaillables. Je regardais les autres disciplines, donc je vivais un rêve éveillé, quoi. Et en fait, j'étais comme pour les Jeux de 92 ou de 96, mais au lieu d'être devant ma télé, j'étais au cœur de l'événement. Donc c'était magique. Et en plus, j'ai eu la chance, il y a 4 ans, enfin 3 ans et demi maintenant, de vivre Rio encore avec une autre vision des choses, puisque j'étais consultant pour France Télévisions et du coup j'étais plus athlète, mais j'étais quand même au cœur des Jeux. Donc c'était encore une découverte et c'était finalement mes cinquièmes Jeux en fait, entre guillemets, auxquels je participais. Et à chaque fois avec une maturité différente, avec un regard différent, donc j'étais attentif à d'autres choses et finalement on se lasse jamais de ces moments-là, quoi.
Alors le mot de la fin, est-ce que revenir au jeu un jour, peut-être dans un rôle de sélectionneur par exemple de l'équipe de France, c'est quelque chose qui vous...
C'est un rêve, comme j'ai pu en avoir d'autres dans ma vie. J'ai réussi à en exaucer certains. Peut-être que celui-là n'arrivera jamais. Mais effectivement, j'ai eu la chance de vivre des moments très très forts avec le maillot bleu sur les épaules pendant en plus une durée très très longue. 18 ans, c'est vraiment incroyable d'avoir la chance de pouvoir porter ce maillot bleu pendant 18 ans. Et quelque part, je me sens un petit peu redevable par rapport à la fédération, par rapport à ceux qui sont passés avant, qui m'ont donné cette chance. Et j'ai envie de continuer à vivre cette histoire des Bleus, cette histoire de la Fédération Française de Handball. Et finalement, aujourd'hui, le seul moyen que j'en sois acteur, c'est de devenir sélectionneur. Donc, c'est dans un coin de ma tête. Je ne sais pas si ça arrivera un jour et je ne sais pas quand. Mais en tout cas, j'y pense et on verra si un jour la fédération me donne ma chance.
Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Peut-être 2024-2028, on en reparlera. Merci beaucoup, Jérôme.
Merci beaucoup. Au revoir.